Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Lionel Rapp et de Laure Aveau. Au micro, Christiane Blain. C'est avec joie que je reçois Stéphane Courpotin. Chers amis auditeurs, vous le connaissez, il a évoqué la mairie de Arcis, un petit village à côté de Nogent-le-Rotrou. Stéphane Courpotin, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, je vous invite pour autre chose. J'ai su que vous occupiez également de l'Institut André Belay. Et cet institut, à nos gens, est extrêmement connu. Et d'ailleurs, vous avez une anecdote à ce sujet, n'est-ce pas?
Oui, il est très connu. Il faut juste rappeler, je crois que c'était en 1965, voilà. À l'occasion de la venue du général de Gaulle, la première dame, à l'époque, était venue visiter, effectivement, les enfants de l'Institut.
Oui, parce que c'est un institut qui est très connu en France, et elle-même avait un enfant qui était sourd aussi, et donc elle est venue voir cet institut. Vous y étiez
Non, j'y étais pas, mais il est vrai que l'Institut André Belay est l'un des premiers instituts en France à avoir vu le jour et à s'occuper des enfants sourds.
Alors, en quelle année, justement?
Alors, il a été fondé par l'abbé André-François Belay, qui est né en 1766 à Nogent-le-Rotrou, rue Saint-Laurent. C'est un abbé qui ira à l'école, à Nogent-le-Rotrou, chez les pères de la doctrine chrétienne. Il va poursuivre des études dans le collège de Nogent-le-Rotrou, et vous verrez au fil de mon discours qu'il est très attaché à cette ville, à sa ville. À 13 ans, il va entrer au séminaire de Chartres.
Oui.
En 1785, un peu plus tard, il rentre au séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Oui. Il va y terminer ses études de théologie, et puis il va fréquenter en parallèle la Sorbonne. Il reviendra à Chartres pour préparer son sacerdoce. Et en 1790, il sera ordonné prêtre. Alors, il revient aussitôt à Nogent, parce que, je vous le disais, il tient beaucoup à sa ville, et il va y célébrer ses premières messes.
Alors, il est installé rue Saint-Laurent?
Il est installé rue Saint-Laurent, effectivement. Et malheureusement, la période révolutionnaire s'installe, et l'abbé doit se faire discret. Il va même s'exiler finalement de la capitale du Perche pour échapper à la police.
Parce qu'on recherchait...
Oui, parce que les prêtres à l'époque étaient malmenés par la police et donc il fallait effectivement se faire le plus discret possible.
Alors il part où alors?
Il part notamment en Normandie. Ça n'empêche qu'il reste actif et qu'il va essayer de fonder avec un autre abbé une fondation. Et il ira même jusqu'à Rome pour rencontrer le pape, Pie VII, pour lui demander l'autorisation de créer cette fondation.
Parce que pour créer une fondation comme ça?
Il fallait demander effectivement l'autorisation au pape. Il ira même en Angleterre demander des autorisations à ses supérieurs.
Et pourquoi en Angleterre?
Parce que justement les prêtres étaient exilés pour échapper aux répressions qui existaient alors en France.
Donc c'était très compliqué d'organiser un institut.
Oui, alors d'autant plus, heureusement, les temps vont s'apaiser et il pourra créer son institut. Alors justement, j'aimerais revenir sur la création de cet institut.
Oui, bien sûr.
L'anecdote qui a servi finalement de point de départ à la création de cet institut. Le père André Belay et le père Guillou partent. On est en 1809.
Alors, le père Guillou, c'était le prêtre de Nogent-le-Rotrou?
Non, c'était un prêtre dont il avait fait la connaissance et ils portaient ensemble la bonne parole.
Ah, très bien. Et ils voulaient la même chose tous les deux.
Alors, vous allez voir, presque. Oui. En 1809, ils partent à Alençon, porter justement la bonne parole. Et évidemment, tous les deux, voyage léger. Le père Guillou a un problème avec ses chaussures qu'il doit absolument le faire réparer. Donc évidemment, il les porte à un cordonnier et le soir même, ce cordonnier leur rapporte les chaussures.
Restaurées,
alors que les deux abbés étaient à table. Le père Guillou lui demande alors combien il lui doit et là, pas de réponse. Le père Guillou réitère sa demande, de nouveau, pas de réponse. Et puis, il y a un témoin de la scène qui arrive et qui leur explique que finalement, ce cordonnier est sourd.
Ah oui,
ça c'est alors, les deux prêtres, là, sont un peu interloqués et ils sont même interrogés, je dirais, sur un plan intellectuel. Et le père Guillou propose alors à l'abbé Belay de prendre en charge l'éducation de ces sourds.
Alors qu'il n'était pas du tout, il ne s'y connaissait pas
non, effectivement.
Particulièrement.
Même s'il avait eu des velléités pour enseigner aux enfants pauvres de la ville de Nogent, effectivement, il n'y connaissait rien dans la surdité.
Oui.
N'empêche que cette idée doit lui trotter dans la tête. Mm-hmm. Et quelques temps plus tard, l'abbé Belay, de retour à Nogent, les temps s'étant un peu apaisés,
oui,
demande à une sœur de la congrégation.
Oui, parce qu'il y avait beaucoup de sœurs à Nogent.
Il y avait beaucoup de sœurs et il y avait une congrégation très forte.
Oui, parce qu'en fait, presque tout le côté médical était traité par des sœurs.
Hein, exact.
Jusqu'à il n'y a pas longtemps, oui, d'ailleurs. Et à la clinique Boutron, ce n'était que des sœurs qui étaient là pour...
Il y avait un poids très fort des sœurs.
Exactement.
Et j'ai oublié de préciser que peu de temps avant, l'année d'avant, l'abbé Belay, d'ailleurs, avait fondé la communauté chrétienne de l'Immaculée Conception,
voilà,
hein, qui était à l'époque rue Doré,
c'est ça,
qu'on appelle aujourd'hui la rue Gouverneur.
Voilà. Dans la rue Doré, on peut toujours voir d'ailleurs le grand portail de cet institut qui a deux entrées maintenant.
C'est tout à fait ça.
On l'expliquera tout à l'heure plus en détail.
Très bien. Donc cette sœur, Catherine Fleury, qui était nogentaise, va aller se former à Paris.
Oui.
Elle se rend dans un établissement, alors le premier établissement pour le coup à accueillir des enfants sourds, en France, à Paris, fondé par l'abbé de l'Épée.
Rappelez-nous la date, parce que c'est quand même très important.
Alors cet établissement, je crois, a été fondé en 1780, je ne sais plus.
Oui, fin 18e.
Voilà, fondé par l'abbé de l'Épée. D'ailleurs, c'était le premier centre en Europe à accueillir des enfants sourds.
À Paris.
À Paris. Et il existe toujours, hein, il est rue Saint-Jacques à Paris.
Et il y a toujours des...
Et il y a toujours des enfants sourds.
Parce que c'est essentiellement pour les enfants.
Oui, c'est pour les enfants et pour les enfants sourds. Et donc la sœur, une fois formée, revient à Nogent et elle va créer la première classe pour les enfants sourds, mais pour les filles uniquement, puisque les sœurs ne veulent pas s'occuper des garçons. Alors l'abbé Belay, ça le chagrine, et donc il se dit, bah, je dois moi aussi aller me former pour pouvoir accueillir des jeunes garçons sourds. Et il va aller également à Paris. Il va rencontrer l'abbé Sicard,
oui,
qui était également un précurseur. Et il revient à Nogent pour créer sa classe de garçons.
Alors, là, il y avait combien d'enfants à peu près dans chaque classe?
Au début, pendant 18 mois, l'abbé Belay n'avait qu'un seul enfant.
Oui.
Mais rapidement, ça s'est su, et les effectifs ont augmenté très rapidement.
Plus chez les garçons ou chez les filles?
Alors, je pense que c'était assez équilibré, puisque de ce qu'on peut voir sur les anciennes cartes postales, c'était assez équilibré.
Là, on est toujours fin 18e.
Oui.
Il y avait combien d'enfants sourds à cet institut, donc, à Nogent?
Ils sont montés rapidement, une cinquantaine d'enfants.
Ah oui.
Ah oui.
Ça va très vite.
Ça drainait évidemment les enfants de Nogent, mais aussi des alentours, et même du département pour finir.
Oui, parce qu'en fait, cet institut, il est le seul dans le département?
Oui. Effectivement, c'est à peu près la configuration qu'on retrouve en France. Il y a à peu près un institut par département.
Très bien. Alors là, pour le moment, ce sont les sœurs qui dirigent cet établissement avec l'abbé Belay.
Tout à fait. Ce sont les sœurs qui dirigent l'établissement.
C'est un établissement confessionnel à ce moment-là.
Oui, bien sûr.
Oui.
Bien sûr, la religion y est également enseignée. Mais elles sont aussi, et l'abbé Belay également, les précurseurs avec l'utilisation de méthodes d'enseignement qui ne sont utilisées nulle part ailleurs. Il faut quand même savoir que ces enfants sourds étaient considérés alors à l'époque comme des personnes non éducables, comme des arriérés mentaux, des débiles.
Ah oui.
Donc ils n'avaient absolument pas d'accès à l'éducation.
Ah oui, donc c'est quelque chose d'extrêmement important.
Ah oui, c'est quasiment révolutionnaire, en tout cas pour ces enfants.
Et les enfants, dans un premier temps, ils ont pu apprendre à lire?
Alors, avant d'apprendre à lire,
oui,
et c'est l'abbé de l'Épée, faut bien le reconnaître, c'est dit, ces enfants ont quand même un langage, le langage des signes.
Oui.
Et il faut s'appuyer sur ce langage pour développer finalement les apprentissages.
Parce que nulle part ailleurs en Europe, on ne connaissait les méthodes pour apprendre à lire avec les gestes.
Non, effectivement. Effectivement.
Donc c'est une grande...
C'est une grande avancée. Alors, ce qui est dommage, c'est par exemple, en 1880, il y a un congrès de Milan. Et là, on décide d'interdire la langue des signes. L'idée, c'est de faire parler absolument les enfants sourds. Alors... Et donc, on interdit la langue des signes dans les établissements. C'est contre nature,
oui.
En réalité.
Mais est-ce que, sur un plan médical, il y a un problème de gorge?
Alors, il n'y a pas de problème au niveau des appareils phonatoires. Il y a un problème, évidemment, de réception.
Oui.
Le cerveau, donc, les aires du cerveau dédiées au langage ne vont pas se développer comme chez un enfant entendant.
Ah oui.
Et il faut, on l'a su après, il faut vraiment s'intéresser à développer, justement, ces aires, notamment l'aire qui sert à recevoir les messages, pour ensuite développer le langage. Mais... il faut aussi s'appuyer sur la langue des signes.
Et oui.
Et ça, bon, finalement, on va exclure les enseignants qui utilisaient la langue des signes, des instituts, mais très rapidement, on va se rendre compte que ce n'est pas possible et que cette langue naturelle revient au galop.
Oui.
Moi, on me racontait des anecdotes où on attachait presque les mains des enfants dans le dos pour pas interdire de signer.
Oui. Mais vous dites de signer.
De signer, oui.
C'est devenu un verbe.
Oui, oui.
Pour vous-même, dans le langage courant.
C'est signé. C'est l'utilisation de la langue des signes et les enfants signent.
Ah oui.
Donc, on reviendra évidemment à la langue des signes. Ça n'exclut pas d'avoir des prétentions sur le développement du langage oral, mais il faut s'appuyer sur cette langue. Cette histoire des sourds, c'est l'histoire aussi d'une minorité.
Mais ça, oui.
Qui a souvent été brimée, qui a... Et aujourd'hui encore, hein, on est un peu tiraillé... Quand on arrive un enfant sourd, souvent il a des parents entendants. Les parents entendants veulent que l'enfant parle,
oui,
que l'enfant entende,
oui.
Qu'il ait la même langue que,
que.
Et donc on va souvent ils vont se diriger vers effectivement plutôt la méthode oraliste où, et on se rend compte que ça marche pas toujours, pas toujours aussi bien,
ouais.
Et que l'enfant sourd lui il est aussi coupé entre deux cultures, c'est que
oui,
il sent
ça,
parfois mieux dans la langue des signes, mais on lui demande de parler. Et donc, on vit ça encore un peu aujourd'hui, et sur les choix de langue, ça reste compliqué.
Mais si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Thank you.
suis toujours avec Stéphane Courpotin et nous évoquons quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est les sourds, la langue des signes. Alors Stéphane Courpotin, pour les gens qui n'auraient pas entendu la première partie de cette émission, peut-être vous pouvez redire en fait ce qui vous a amené aujourd'hui à évoquer les sourds et la langue des signes.
Oui, moi je l'ai dit, enseignant spécialisé à l'Institut André Bellet. C'était pas mon parcours premier puisque j'avais fait des études de droit. À l'issue de ces études, j'ai dû faire un service civique et je suis arrivé à l'Institut André Bellet que je ne connaissais pas. Et j'ai été vraiment subjugué par les enfants sourds, par la langue des signes. Et à cette époque, le directeur cherchait des enseignants et je me suis proposé pour partir en formation.
Alors, votre formation, parlons-en.
Alors, c'est une formation de 2 ans qui se faisait à l'Université de Savoie, à Chambéry. C'est un lieu unique de formation pour les enseignants spécialisés. Alors aujourd'hui, il y a des pourparlers et ce lieu de formation serait déplacé à Suresnes.
Et alors à Chambéry, racontez-nous comment ça s'est passé, parce que c'est intéressant pour des jeunes qui voudraient aussi faire comme vous, parce que j'imagine qu'il n'y a pas tellement, c'est un peu
non, effectivement.
C'est très rare.
Alors il faut d'abord trouver un centre qui accepte de nous former.
Oui.
Et puis ensuite on part à Chambéry, la première année c'est essentiellement des cours théoriques.
Des cours théoriques, ça veut dire explique.
On nous explique comment enseigner aux enfants sourds, la psychologie de l'enfant sourd, l'histoire des enfants sourds.
Bien sûr.
Alors, notre métier, si vous voulez, se décompose en 2 axes. Il y a un axe qui porte sur la pédagogie spécifique à apporter aux enfants sourds, et puis un axe sur l'apprentissage et le perfectionnement de la parole et du langage. C'est-à-dire qu'on est aussi habilité à travailler auprès des enfants sourds pour développer la parole et le langage.
Oui. Et est-ce que vous allez apporter autre chose? J'entends des connaissances.
Bien sûr. Alors ça, c'est plus sur la partie pédagogique. Et on enseigne le français, les mathématiques, l'histoire, la géo, les sciences, comme un prof, mais avec des méthodes particulières, en nous appuyant notamment sur la langue des signes.
Alors, méthode que vous avez apprise à Chambéry.
Oui, qu'on apprend partiellement à Chambéry. Et évidemment, comme dans beaucoup de métiers, il faut continuer à se former parce que les techniques évoluent. Et c'est vrai pour les enfants sourds, notamment au niveau de l'appareillage. La technologie a beaucoup, beaucoup évolué. Autrefois, les enfants sourds portaient au mieux des contours externes,
oui,
des prothèses auditives. Aujourd'hui, de façon systématique et précoce, il y a des dépistages pour les bébés de la surdité. Et aujourd'hui, la technique, ça s'appelle l'implant cochléaire.
L'implant
cochléaire. Pourquoi? Parce qu'on va implanter directement dans la cochlée une sorte de petit fil qui va stimuler directement en fait, l'oreille interne.
Ah oui, c'est relié au cerveau.
Des électrodes.
Oui.
Directement dans la cochlée, qui vont effectivement stimuler directement l'oreille interne et donc le cerveau. Donc, une sorte de super prothèse qui permet, lorsque c'est bien fait, finalement, à l'enfant sourd de percevoir beaucoup plus facilement les sons qui l'entourent.
Et est-ce qu'il pourra arriver à parler normalement, enfin j'entends, avec d'autres personnes qui ne sont pas sourdes?
Oui. Mais il faut savoir que dans la surdité, il y a différents degrés.
C'est ça.
Des surdités moyennes, fortes, ou des surdités totales. Et qu'évidemment, les résultats ne seront pas les mêmes selon le degré de surdité. Selon aussi l'investissement de la famille dans le processus d'apprentissage. Selon l'environnement de l'enfant, il y a quand même pas mal de paramètres qui rentrent en compte dans le succès de l'apprentissage de la parole et du langage.
Et est-ce que les enfants sourds sont parfois nés de parents sourds?
Oui, ça arrive.
Ça arrive.
J'ai eu des élèves de parents sourds. Effectivement, là, la question, par exemple, de la langue, du choix de la langue, ne se pose pas.
Non.
Ils baignent dans la langue des signes et tout de suite, ils acquièrent une langue, tout de suite, une langue maternelle, pour le coup,
oui,
la langue des signes.
Oui. Moi, je dois dire que j'ai assister à un bal avec des sourds. Et vraiment, j'ai passé une soirée merveilleuse parce qu'en fait, on arrivait à communiquer et on pouvait danser aussi et ils adoraient danser. Enfin, donc, Si vous voulez, je suis très très contente de vous recevoir aujourd'hui parce que on a toujours l'impression que les sources sont murées en quelque sorte. Et moi, personnellement, j'avais vu que non, au contraire, ils adoraient rire, s'amuser et jouer. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous disiez à nos auditeurs ce que vous avez rencontré dans ce milieu des sourds. Parce qu'en fait, il y a, si je peux dire, deux catégories, ceux qui sont nés de parents sourds et puis les autres. C'est ça.
Oui, alors, nous, quand on reçoit des enfants, par exemple, oui. Des enfants sourds, ça reste des enfants avant tout. Et oui. Ça, c'est important de le dire. Oui. Donc, des enfants, effectivement, joyeux, avec des envies. Alors, évidemment, comme chez les autres, il y en a qui sont un peu plus taciturnes, oui. Mais ça reste, pour nous, des enfants. Oui. Et vous parliez de la communauté sourde. C'est vrai qu'elle était très forte à nos gens. On parlait de communauté sourde, oui. Qui organisait des banquets.
Oui.
Très joyeux. Alors, oui. Et c'est vrai qu'on parle de communauté, de culture sourde.
Oui.
Attachée, évidemment, à la langue des signes. Mais on retrouve aussi, par exemple, dans l'humour sourd,
ah,
c'est
oui.
Très particulier, parce qu'en langue des signes, ça reste très visuel, et ça reste vraiment attaché à cette communauté.
Vous parlez d'humour sourd, est-ce que vous pouvez nous donner des
non,
exemples?
Non, je ne pourrais pas, parce que je verbaliserai, et ça ne serait pas drôle.
Oui,
en fait,
ça.
Il faut le signer.
Et j'adore quand vous dites qu'il faut le signer, c'est vrai qu'on a même du mal à comprendre ce verbe dans ce sens-là.
Oui,
quoi.
Oui, oui.
Et pour vous, est-ce que ça a été quand même compliqué dans votre vie, parce que vous semblez être immergé en quelque sorte. Je rappelle que vous êtes le maire d'Arcis, que vous voyez des gens toute la journée qui ne sont pas sourds. Vous arrivez à faire voir la distance entre les deux, ou est-ce que vous vous sentez toujours immergé, ou que vous pouvez...
Non, j'arrive à faire la différence,
oui.
Mais c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant.
Passionnant.
Un métier pour lequel je continue de me former, puisque, comme je vous le disais, il évolue, et la population qu'on reçoit évolue aussi. Donc, moi, je continue à pratiquer ce métier vraiment avec passion.
Et on l'entend. Et alors, quand vous dites « je continue à me former », où?
Alors, par exemple, notre établissement s'est ouvert depuis plus d'une vingtaine d'années aussi aux enfants porteurs de troubles du langage, qu'on appelle aujourd'hui les dysphasiques, dyslexiques,
ah oui.
etc. Et on n'était pas forcément formé à cette problématique, et donc je suis parti à Paris pour passer un diplôme universitaire et pour me mettre à jour au niveau des connaissances et des pratiques pour recevoir ce public.
Alors, par exemple, un enfant dyslexique, il faut combien de temps pour le remettre? Je vais dire dans le droit chemin, mais ce n'est pas le bon mot.
Non, et là aussi, je vous ferai une réponse nuancée, parce que ça dépend de l'enfant, ça dépend aussi du degré, finalement, de son trouble.
Bien sûr.
Ça dépend de son environnement, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr, c'est que cet enfant a lui aussi des besoins spécifiques, et puis un travail intensif auprès de cet enfant.
Oui, on comprend que ce soit des abbés, parce que... Il faut quand même mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pour ce métier.
Oui, c'est un métier qui demande de la technicité,
oui.
Mais qui demande aussi d'être créatif. C'est-à-dire qu'on explore aussi parfois des pistes qui n'ont pas été empruntées.
Alors maintenant, j'aimerais qu'on arrive à l'organisation de la scolarité, puisqu'on peut parler de scolarité.
Oui, bien sûr.
Oui.
Alors là aussi, il y a eu une évolution assez importante. Autrefois, tout se faisait intramuros au sein de l'Institut.
Mmh.
Tous les enseignements étaient intramuros. Mais depuis de nombreuses années, déjà, l'Institut s'est ouvert et on travaille en partenariat avec des écoles. Les écoles de quartier à Nogent-le-Rotrou, notamment.
Exemple.
Exemple, l'école Saint-Joseph.
Oui.
Avec qui on travaille depuis des années, de nombreuses années.
Oui. Et puis l'Institut, quoi. C'est,
oui.
C'est très, très bien. Les
oui,
uns apprennent beaucoup des autres.
Tout à fait. On travaille également avec les collèges. Avec Arsène Meunier ou avec le lycée Sully.
Alors quand vous dites on travaille, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que, alors, ça a été renforcé en plus avec la loi sur l'inclusion scolaire.
Oui, bien sûr.
Et l'école inclusive.
Mmh.
Ça veut dire que nos
quelques
enfants...
Quelques mots sur l'école inclusive.
Alors, l'école inclusive, c'est permettre justement aux élèves en situation de handicap d'être scolarisés dans leur école de quartier, ou en tout cas pour nous, dans l'école qui est la plus proche de l'Institut André Bellay.
Donc... Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des enfants sourds qui sont maintenant dans l'école Saint-Joseph ou...
Exactement, exactement.
Et alors, vous les suivez vous-même?
C'est ça, c'est ça. Alors, ils ont bénéficié d'inclusion, de temps d'inclusion, plus ou moins en fonction de leurs capacités. Oui. Mais l'idée, c'est effectivement de mettre ces enfants dans les écoles dites normales.
Oui. Et est-ce que ça se passe bien ?
Oui, ça se passe bien quand on a les moyens de les suivre. Et effectivement, alors, il ne faut pas se leurrer. Mettre un enfant en situation de handicap dans une école, ça ne se passe pas toujours bien.
Bien sûr. C'est pourquoi je pose cette question, oui.
Parce que l'enfant peut ne pas s'intégrer, peut se sentir rejeté, ne pas se sentir... Mais à partir du moment où il y a quand même un minimum de moyens humains derrière pour assurer cette inclusion, si cette inclusion est bien expliquée, bien préparée, oui, ça peut très bien se passer. Oui. Et je vous dis, nous, on a cette tradition depuis de nombreuses années, donc ce n'est pas une nouveauté. On n'a pas attendu cette loi sur l'école inclusive pour mettre nos enfants sourds ou porteurs de troubles du langage dans les écoles de quartier.
Oui.
Donc on a une longue tradition derrière nous.
Alors, autre question importante, je suis très contente de vous recevoir. Est-ce qu'il y a d'autres professeurs comme vous qui ont eu le cheminement semblable ?
Oui, on est une quinzaine d'enseignants spécialisés, des professeurs CAPEJ.
CAPEJ, ça veut dire ?
CAPEJ, ça veut dire certificat d'aptitude au professorat auprès des enfants sourds.
Voilà. Et aussi, vous avez des diplômes universitaires
Alors moi, j'ai une maîtrise de droit, comme je vous le disais.
Oui, oui.
Et après cette formation-là, en deux ans, ce CAPEJ, en deux ans, un diplôme d'État.
Et ce diplôme, il faut le baccalauréat ou non ?
Ah ben, il faut au minimum une licence.
Il faut une licence.
Voilà. Pour
Donc, ensuite... tous les professeurs qui sont avec vous ont une licence déjà ?
Oui. Et là, aujourd'hui même, je crois que c'est un master qui est réclamé pour suivre la formation.
D'accord. Et après, ils vont à Chambéry ?
À Chambéry, où je vous disais plutôt là, à l'Institut National Supérieur de Formation de Recherche Handicap et Enseignement Adapté, l'INSHEA.
Oui.
Hein, à Suresnes, qui, a priori, devrait reprendre la formation à son compte.
Et vous êtes combien, donc, de professeurs ?
On est une quinzaine à l'Institut André Bellé. L'Institut André Bellé, c'est Nogent-le-Rotrou, Chartres, Édreux et Vernouillé.
D'accord. Et à Nogent-le-Rotrou, précisément, vous êtes combien ?
À Nogent-le-Rotrou, on est 8-9.
Voilà. Et chacun a sa spécialité ?
Disons qu'on est assez polyvalent, mais c'est plutôt par niveau scolaire.
Voilà. Et vous-même, vous avez combien d'heures d'enseignement ?
Alors, un professeur CAPEJ et à temps plein doit réaliser 21 heures au collège auprès des élèves.
21 heures.
Voilà. Le reste se décompose entre les temps de réunion, concertation et les temps de préparation.
Oui, c'est un peu le même.
Oui.
C'est pareil que l'enseignement. Et les émoluments aussi, vous êtes payé par l'État aussi ?
Oui, on est payé. Alors, particularité des profs CAPEJ, on ne dépend pas du ministère de l'Éducation nationale.
De la santé.
Mais plutôt de la santé et des affaires sociales, oui.
Voilà. Donc vous êtes payé par ce ministère-là.
C'est ça.
Donc ça, c'est très intéressant de savoir que le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale collaborent, en quelque sorte.
Oui, 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 c'est une particularité. On est géré par une association voilà, qui reçoit des fonds. Nos autorités de tutelle, ce sont les ARS.
Oui.
Et on reçoit des fonds aussi de la CPAM.
Oui. Alors, je crois qu'il y a eu aussi un livre qui a été écrit. Peut-être vous pouvez citer ce
livre qui
pour
été
nos
écrit.
Auditeurs qui voudraient aller plus loin dans tout ce que vous venez de nous dire.
Oui, un livre remarquable qui avait été écrit à l'occasion du bicentenaire de l'Institut André Bellé.
Oui.
Écrit par Gwenaël et Claude Hamelin, qui sont bien connus à Nogent-le-Rotrou.
Oui, puisqu'ils font beaucoup de choses. Et effectivement, très connu. Et vous avez su pourquoi ils avaient recherché ce thème ?
Oui, c'était une commande à l'époque du directeur, justement, de l'époque, qui voulait marquer le coup à l'occasion du bicentenaire de l'existence de l'Institut André Bellé.
Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiocanciel.fr. Merci beaucoup.
Merci.